Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment d'élargir sa vision sur le monde à travers des expériences de vie de gens que je rencontre un peu partout, en France ou à l'international. Là, je me retrouve sous un arbre, les fesses un peu mouillées parce qu'apparemment, cette nuit, comme on est dans le sud, l'herbe a été arrosée pour pouvoir maintenir un petit peu des espaces verts. On est à la Grande Motte, quelque part, une ville ou un village, je ne sais pas, plutôt une ville sur la partie sud Méditerranée. Et avec moi, Marie-Mathilde. Alors Marie-Mathilde, je ne sais pas grand-chose de toi, on va prendre le temps de te rencontrer, de te découvrir dans cette émission. Je sais juste que tu as découvert en voyage le yoga, qui a pris de plus en plus de place dans ta vie, et que tu te lances depuis peu, quelques mois, quelques années, je ne sais pas, on va apprendre à découvrir ça, dans le yoga. Mais avant de venir au yoga, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, de ton parcours, et de revenir à ce qui t'a amené pour la première fois en dehors de la France.
Bonjour Alexandre, tout d'abord merci beaucoup de m'accorder ce temps Et alors, où commencer pour me présenter? Je viens d'une famille de 4 enfants. Mon père est immigré espagnol. Il est né en Espagne et est venu à ses 3 ans. Et du coup, il nous a toujours inculqué des valeurs de libre arbitre et d'alignement avec soi-même, de faire des choix, d'être vraiment ouvert d'esprit. Mon adolescence s'est faite en Auvergne avec mes frères. J'ai 3 grands frères. Et donc, j'ai toujours un peu voulu voyager, mais nos parents, par contre, nous amenaient toujours au même endroit. Je pense que c'est aussi nous qui leur demandions. Et du coup, la première fois où j'ai pu aller à l'étranger, ça a été pour aller voir une amie qui était en Irlande. Et donc, je suis allée la voir avec mon sac à dos. Et c'était la première fois que je sortais seule de France. C'était vraiment une sensation de liberté, de pouvoir découvrir une nouvelle ville, de pouvoir profiter de la vie de cette manière-là. Et donc ensuite, j'ai fait des études, j'ai eu mon diplôme de kiné. Et lorsque j'étais kiné, j'ai eu les moyens de pouvoir voyager un peu plus. Je suis allée aux États-Unis rejoindre mon frère qui a habité 3 ans, donc du côté de San Francisco, où j'y ai passé 3 semaines à découvrir une culture américaine très, très ouverte aussi à San Francisco. Les gens sont très différents. Il va y avoir plusieurs quartiers Moi, j'ai adoré cette ambiance de la côte ouest du pays. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, en tant que kiné, on fait des remplacements pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut s'installer. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'aller vivre en Guadeloupe. Et du coup, je me suis dit, j'ai un de mes frères qui est prof de yoga. Et ils nous donnaient des cours de yoga. Moi, quand j'ai été diplômée kiné, j'ai fait une formation de prof de pilates où ça m'avait plu. J'aimais enseigner, mais la discipline, j'avais pas vraiment accroché. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une formation prof de yoga pour, si jamais en Polynésie, je trouve pas de travail en tant que kiné, je pourrais donner des cours de yoga sur la plage. Voilà, c'était assez... C'était pas trop spirituel, c'était plus dans le côté pratique de la chose. Et je me suis dit, quitte à le faire, autant aller au fond des choses et autant aller à la base du yoga. Et donc, j'ai fait ma formation en Inde. Je suis allée en Inde, je parle assez bien anglais. Et je me suis dit, je vais aller au berceau du yoga, à Dharamsala. Du coup, c'était au nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya. Et c'est même la ville de résidence du Dalai Lama. Et en fait, j'ai choisi cette ville par intuition. Je ne savais même pas que c'était la ville du Dalai Lama. Et c'est un ami qui m'a dit, tu passeras le bonjour au Dalai Lama. Je dis, quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, je me suis vraiment laissée porter par, euh, par les occasions et les opportunités. Et donc là-bas, on s'est retrouvés, on était 29 êtres humains à vouloir être prof de yoga ou découvrir le yoga. Et donc, c'était vraiment... Enfin, il y avait des personnes du monde entier, d'Australie, d'Amérique du Sud, de l'Europe. Et donc, on a passé 4 semaines ensemble. Et en fait, pour moi, le yoga, c'était... C'était un peu le challenge de faire des postures sympas, de faire l'équilibre sur la tête, tout ça. Et en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Le yoga, c'est vraiment un art de vivre. C'est vraiment un outil qui te permet d'être bien avec toi, dans ton corps, de connecter ton corps, ton esprit, de créer des liens avec les personnes qui t'entourent, mais également avec l'espace qui t'entoure, avec la nature et en fait, j'ai découvert le yoga. J'y suis allée sans avoir de questions, en fait, en me disant, bon, bah voilà, je vais apprendre à être prof de yoga. Et en fait, je suis revenue complètement changée. On a eu des expériences, ils nous ont transportés. C'était une expérience de dingue. Et donc, je suis revenue ici, à la Grande Motte, et j'ai ouvert mon cabinet de kiné. Je me suis installée.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Marie-Mathilde, donc en fait, toi d'abord, le premier voyage a été d'ordre professionnel. Tu t'es servi de la casquette professionnelle pour pouvoir aller vivre en Guadeloupe, où tu as mis un peu un pied dans cet univers interculturel avec des gens de différents pays, dans un lieu différent du tien. Quand je pose la question, j'aime bien poser cette question, c'est quoi pour toi le voyage? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ou comment est-ce que tu le définirais? Qu'est-ce que c'est que voyager pour toi?
Voyager pour moi, c'est l'aventure. C'est le changement, c'est la découverte, c'est... En fait, je suis Verseau et du coup, ce sont des personnalités qui sont portées sur la liberté. Et pour moi, le voyage, c'est la liberté. Et du coup, c'est... Ouais, voilà, pour moi, le voyage, c'est la liberté.
Le voyage, c'est la liberté. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est que pour toi, être libre?
Ok, pour moi, être libre, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément faire n'importe quoi parce qu'on a des responsabilités, mais c'est la liberté. Qu'est-ce que c'est d'être libre? C'est libre d'être heureux, libre de profiter de chaque instant, libre de faire des choix et dans ces choix de pouvoir avancer, de pouvoir être de pouvoir être qui tu es, en fait. Ouais, c'est ça, être libre d'être qui tu es vraiment. Et ne pas craindre d'être jugé, de ne pas être aimé, d'être tu vois le souvent quand on fait des choix, c'était un de mes livres que j'aime beaucoup partager justement dans mes classes de yoga. C'est en fait quand tu es face à une situation, t'as toujours le choix entre la peur et l'amour. Et en fait, lorsque tu fais des choix par peur d'être jugé, par peur de mal faire, et ben ça va t'amener dans une énergie négative. Et du coup, pour moi, cette liberté, c'est être libre de choisir l'amour et de choisir d'être bien avec toi-même. C'est pas forcément, on peut se dire oui, peut-être. C'est pas de responsabilité, mais si au contraire, c'est une grosse responsabilité d'être libre, d'être heureux, d'être libre de choisir son bonheur.
Comment on fait pour être libre? finalement, ce concept de la liberté, on y aspire tous. Hein. Alors, la dernière personne que j'ai interviewée, j'ai posé la même question. Et je dis, c'est quoi être libre ? Il m'a dit, c'est d'avoir le temps de faire ce qu'il nous plaît, d'avoir le temps de faire ce qu'on aime. C'est vrai que j'aime bien aussi cette définition-là, cette notion du temps. Avoir du temps, c'est aussi relié à la liberté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être libre ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir du temps ?
Pour moi, cette notion-là, elle est portée sur l'énergie, elle est portée sur les occasions qui vont se présenter à toi. Le fait d'avoir du temps pour soi, c'est, oui, c'est une certaine notion de liberté, mais au final, c'est quoi d'avoir du temps pour soi ? Qu'est-ce que toi, tu aimes faire au final ? Je pense que c'est plus profond que le fait d'avoir du temps, c'est de savoir qu'est-ce que toi, tu aimes. Par exemple, aujourd'hui, je travaille beaucoup et en fait, ça me plaît. Aujourd'hui, je me suis engagée sur un truc où au final, tous les jours de l'année, je travaille parce que tous les jours, je me réveille avec la routine où je donne un cours de yoga en ligne. Et pour certaines personnes, ça va être une sorte de contrainte. Mais pour moi, en fait, c'est la liberté parce que ça me permet de pouvoir me déplacer où je veux, grâce à Internet, de pouvoir donner les cours d'où je veux. Et au final, c'est un temps que j'accorde à mes membres de la team Banana, mais du coup ça c'est du temps que j'ai envie de passer à faire ça, donc est-ce que de passer du temps à faire ce qu'on veut, je pense que l'essentiel déjà c'est de savoir de savoir ce qu'on aime et ce qu'on aime faire, et du coup toi, par exemple, c'est de rencontrer des personnes, de découvrir certaines visions des choses, de pouvoir capturer les images, les vidéos, chacun. Et pourtant, tu travailles, en fait.
Et quand tu fais ce que tu aimes, c'est vrai que tu n'as jamais l'impression de travailler, en fait. Hein. C'est cette notion de karma yoga, du yoga de l'action, finalement. On essaye de trouver... Il y a peut-être un petit peu dans nos sociétés ce problème où on s'adapte, où on se suradapte à un système, à la volonté de nos parents, de nos profs, sans vraiment prendre le temps de savoir qui on est vraiment et ce qu'on a réellement envie de faire. Et donc on observe autour de nous beaucoup de gens qui, à 30 ou 40 ans, font un changement, un virage à 90 degrés pour remettre un peu de sens dans leur vie, hein, réinterroger le sens, ce que je me sens à ma place, ce que je fais aujourd'hui, c'est réellement quelque chose avec lequel je suis en accord, ce que je suis aligné avec ces valeurs-là. Emmène-nous avec toi à Dharamsala et ce que tu y as découvert, ce que tu y as fait et comment tu as changé ta perception sur ce qu'est le yoga.
Quand je parle du berceau du yoga, c'est l'Inde en fait, parce que c'est Patanjali qui a créé les Yoga Sutras. il en est l'auteur, mais c'est marrant parce qu'il dit qu'en fait, c'est pas lui qui a inventé le yoga, c'est les dieux qui lui ont dicté les yoga sutras. Donc en arrivant là-bas, on était encadrés, j'y suis allée seule. Pour moi, une femme, du coup j'avais 28 ans, voyager seule, ça pouvait avoir une connotation dangereuse, et du coup j'avais besoin de ce cadre de l'école pour pouvoir partir seule. Et donc on était dans une structure avec un yogashala, on avait des chambres partagées, on s'est rencontrés, le groupe du coup, pour ce mois, ces 4 semaines de formation. Et donc on nous a surtout présenté le programme où en fait tous les jours on était dans le yogashala de 6h30 le matin à 7h le soir. Donc ça ne m'a pas permis de découvrir tout le nord de l'Inde, de voyager. Je suis juste allée dans la ville de Dharamsala où les impressions qu'on nous raconte de l'Inde avec les personnes qui klaxonnent, avec les sans-abri aussi qui sont dans la rue, la pauvreté qui est très présente aussi. Mais il y a cette ambiance de joie et une énergie en fait qui est peut-être amenée par les montagnes alentour, par la culture indienne. Voilà ce que je peux dire de Dharamsala. Et au niveau de l'expérience du coup de yoga, il y a eu plusieurs exercices qui m'ont marqué. Un des premiers, ça a été de partager un moment avec une personne que je connaissais pas, qui faisait partie du groupe. Mais en fait, on était par binôme et il fallait qu'on se regarde dans les yeux, sans parler. On échangeait juste, il y avait une sorte de connexion énergétique. Et Andrada, elle s'appelle... Elle vient d'Amérique latine et du coup on a partagé ce moment, on a créé une connexion qui était pour moi un premier lien vers l'énergie qui entoure justement le yoga. Après on a eu on a passé les semaines de formation et on a eu la chance d'être libéré pour pouvoir assister à une conférence du Dalai Lama. Et du coup, c'était juste une expérience incroyable parce que il y avait des personnes du monde entier. On était très nombreux à vouloir assister à cette conférence. Et donc le moment où le Dalai Lama est arrivé, il y a eu comme un vent d'énergie, un voile un peu sur la salle où tout le monde. Tout le monde s'est tu, tout le monde l'a accueilli physiquement, mais énergétiquement aussi. Et voilà, cette personne-là, rien que par sa vibration, son aura, c'était une expérience extraordinaire pour moi. Après... Tout ce qu'il a dit, j'étais pas encore... avec l'accent, c'est un peu difficile de comprendre l'anglais. Donc j'ai pas pu suivre exactement tout ce qu'il a dit. Je me faisais un peu traduire. Il avait beaucoup d'humilité et beaucoup de rire aussi dans sa voix. Il était très porté sur le... beaucoup de modestie et des petites touches d'humour qui faisaient rire l'assemblée. Et moi j'étais là, bon mince, qu'est-ce qu'il a dit quoi. et rien que par son énergie tu sentais ce côté joie de vivre qu'il a et simplicité et voilà pour cette expérience là. Ensuite on a eu tout un tas de cours sur la philosophie du yoga, sur il y avait beaucoup de parties posture, mais cette partie-là, au final, posture, corps humain, je la connaissais de par mon métier de kiné. Donc, c'est ce qui m'a aidée aussi à pouvoir donner des cours de qualité par la suite, parce que souvent, moi, j'ai fait un 200 heures TTC, mais normalement, en général, les personnes en font peut-être un peu plus parce que ces notions de corps humain, de mouvement, ne sont pas forcément faciles pour les personnes qui ne les connaissent pas. Et donc, il y a eu un autre exercice qui était juste génial que je voudrais te partager et vous partager. C'était la marche des anges. Donc, en fait, c'était... juste avant de terminer la dernière semaine, où en fait, en fin de journée, donc après avoir fait du yoga, la journée, être épuisé un peu de ta journée et de tes 3 semaines déjà que tu as passé à apprendre le yoga, eh bien, on a fait 2 colonnes. Il y avait les profs qui étaient présents aussi. Et chacun son tour, en fait, on marche à l'intérieur de ce couloir. Et tu fermes les yeux, tu avances et chaque personne te donne ce qu'il a envie de te donner. Il te serre la main, il te serre l'épaule, il te fait un bisou, il te serre dans ses bras, il te dit un mot doux, il te dit un mot gentil. Et en fait, tu fermes les yeux, tu ne sais pas exactement qui fait quoi. Tu peux avoir certaines connexions ou tu peux reconnaître une voix ou quoi, mais en fait, tu marches les yeux fermés et tu te laisses aller. C'est un tel exercice de lâcher prise. On était plusieurs à vraiment tout lâcher, à pleurer tellement. C'était puissant et exceptionnel. Et voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Est-ce que tu savais en allant en Inde que tu serais prof de yoga quelques mois ou quelques années plus tard? Est-ce que tu avais déjà cette intention de vivre de ça ou pas du tout? C'était vraiment lors de l'expérience?
Alors non, vraiment mon projet c'était d'aller donner des cours à Tahiti. Donc ça c'était mon projet pragmatique on va dire. Et en fait non, j'imaginais absolument pas que j'allais quitter mon métier de kiné, que j'allais vouloir vivre du yoga uniquement pour moi. En fait, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, je faisais des massages. Et en fait, le métier de kiné, pour moi, c'est quand même un métier que j'aime, que j'adore. Et je me suis battue pour y arriver parce que le concours kiné, je l'ai loupé 2 fois. Donc, je l'ai passé 3 fois. C'était le concours médecine pour rentrer à l'école de kiné. Et au final, je tire un trait là-dessus pour me tourner vers le yoga. C'est un sacrifice d'un côté. Comme je te disais, je sors un peu de ma zone de confort parce que le métier de kiné, je le connais, je l'aime. On a une certaine reconnaissance par les patients parce qu'on les soigne. On est un peu leurs confidents. C'est un très beau métier. C'est le métier de kiné, c'est un des métiers qui rend le plus heureux, je crois, selon certaines études. Donc ouais, c'est. J'imaginais pas du tout que j'allais faire ce changement dans ma vie et en même temps, j'adore ça parce que c'est l'aventure, c'est la liberté. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure.
Mais c'est vrai que ce que je trouve beau, enfin en tout cas ce que j'observe, c'est cette notion de, tu l'as dit, de reconnaissance. Donc tu es kiné, donc avec une forme de reconnaissance sociale pour être yoga, prof de yoga, où là il y a beaucoup l'image du prof de yoga un peu new age, de quelqu'un qui part se former sur le tas mais qui n'a pas forcément de reconnaissance. Mais toi tu fais vraiment le choix d'aller vers ça et je trouve ça vertueux.
Ouais, c'est risqué. Après, j'ai quand même ma casquette de kiné. Lorsque je donne les cours de yoga, j'ai peut-être plus de légitimité à justement enseigner le yoga. Souvent, mes membres me posent des questions par rapport à certaines douleurs et ça les rassure. Et en fait, pour moi, ça reste dans mon métier. Le métier de kiné, c'est ma formation, c'est mon métier, c'est mon diplôme. Mais du coup, je vais vers... En fait, quand j'ai commencé à faire les cours de yoga, à être prof de yoga, ce que je me disais, c'est que je voulais garder la partie kiné pour la traumato, en fait, c'est-à-dire lorsqu'il y a un accident et que la personne a besoin de rééducation. Et en fait, de transformer... tous les rhumatos, donc toutes les douleurs chroniques avec le yoga. parce que le fait de faire de l'exercice tous les jours, bah, ça te permet de garder un corps souple, ça te permet d'être connecté entre ton corps et ton esprit, parce que souvent, les douleurs, les maladies sont aussi liées à un état d'esprit. Et du coup, je voulais absolument avoir vraiment cette double partie traumato et yoga. Sauf que les deux ne sont pas compatibles. Parce que j'arrive pas à faire les deux, j'ai besoin de me concentrer sur une seule chose, et du coup je fais le choix de me concentrer sur le yoga.
Comment est-ce que tu as développé ta communauté yoga? Parce que c'est aussi se lancer dans l'univers du yoga, et il faut avoir des élèves, donc comment est-ce que toi tu t'y es prise pour créer ta communauté yoga?
Ça a commencé... Déjà, j'ai commencé à donner des cours en physique. Donc ici, c'était le bouche à oreille à la Grande Motte. Et ensuite, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, j'ai donné des cours gratuits sur Facebook, Instagram. Et en fait, j'ai trouvé ça génial, le fait de pouvoir pratiquer tous les jours, de pouvoir donner des cours en ligne où j'avais des personnes de la France entière qui pouvaient être au même moment avec moi et suivre ma classe. Et en fait, après, il y a eu le déconfinement et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour mettre en place le fait de garder le yoga tous les jours parce que c'est génial et la reprise du travail. Et en fait, j'ai créé ces routines de 30 minutes tous les jours, le matin, en se levant. Donc, ça peut être à 7h30 en live avec moi ou en replay quand la personne se lève. Peut-être même elle se lève avant, si elle commence le travail plus tôt ou peut-être après. Et du coup, j'ai mis ça en place. J'ai continué à donner des cours publics sur Instagram. Et après, je suis passée à une team, à un abonnement, parce que c'est un travail qui me demande de l'investissement et dont j'espère vivre. Donc, pour moi, j'ai switché une fois que j'avais déjà un début de communauté. Je suis passée sur un format privé, un format du coup de service et d'abonnement. Et donc, je continue à faire des lives gratuits tous les dimanches pour continuer à faire connaître Yoga Banana et donc à créer petit à petit une liste de membres, de clients et voilà.
Mais donc toute ta communauté, c'est essentiellement grâce aux réseaux sociaux. Tu l'as vu grandir petit à petit, en étant régulière dans la pratique et dans les vidéos que tu postais.
Exactement, ouais, c'est ça. Il faut ça a été aussi pas mal de bouche à oreille. J'ai mis en place des systèmes de parrainage aussi qui ont fait ramener des nouveaux membres et c'est vraiment le fait de faire les lives gratuits tous les dimanches. Là en ce moment j'ai entre 100 et 200 personnes les dimanches en live. Et le matin, chaque matin, donc dans le groupe privé, on est entre 40 et 70 tous les matins. Donc c'est énorme d'avoir autant de personnes qui sont là à partager leur énergie, à recevoir l'énergie que je partage aussi souvent. Le Dalai Lama, il a créé les 10 voleurs d'énergie. Et en fait, je les connais plus exactement les 10, mais en gros, l'idée, c'est de pas gaspiller ton énergie avec quelque chose qui ne t'en donne pas. Et en fait, le yoga, c'est ça la puissance du yoga, c'est que tu vas donner de l'énergie, mais en fait, ça va créer encore plus d'énergie. Et souvent, on me dit, j'ai pas le temps de faire du yoga ou je suis trop fatiguée pour faire du yoga. Mais justement, essaie déjà une fois et tu verras que tu vas avoir beaucoup plus d'énergie grâce à cette pratique, grâce à cet art de vivre. Et il y a des exercices de développement personnel que je donne au cours de la semaine aussi. Par exemple, le mercredi, on fait de la transmutation. Je ne sais pas si tu connais la transmutation. Okay. Ça vient de l'Oponopono, c'est les secrets des sages hawaïens. Et en fait, c'est le fait de consciemment transformer tes pensées négatives en pensées positives. Mais en fait, c'est pas se mentir, c'est vraiment simplement, par exemple, j'ai pas envie de faire telle tâche ménagère. On va prendre un exemple très simple. Eh bien, tu peux dire que tu as envie d'arriver au résultat de cette tâche ménagère, de te sentir bien dans ton intérieur, ou lorsque tu as une contrainte au niveau du travail, eh bien, tu n'as pas envie de la faire. Tu peux transformer ta pensée en disant bah, « j'ai envie de l'avoir fini pour pouvoir faire telle chose ». Tu vois, c'est vraiment... Il y a toujours un moyen de changer ta vision des choses, et je trouve ça super important, et du coup, c'est un peu ce que j'essaye aussi de partager dans le yoga tous les jours.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle Regard d'ailleurs. Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres, et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous!